Bonsoir à tous. Je pense que ça doit être une des rares fois où l'écrivain est là avant l'animateur. Bonsoir Sylvie Germain.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Joël Boudarois, dominicain. J'ai la joie donc d'accueillir ce soir dans les salons de la librairie Sylvie Germain, que vous connaissez tous, bien entendu, dont vous connaissez l'importante bibliographie. Je voudrais, en guise d'introduction, plutôt rappeler quelques lignes d'un article qu'elle a signé dans le journal Sud-Ouest, il y a quelques semaines, le 19 décembre 2011. Un article que je vous invite à aller consulter sur le site du journal Sud-Ouest, si vous ne l'avez pas lu en son temps, qui s'intitule « Éloge des librairies ». Et dans lequel Sylvie Germain prend la défense du livre, déplore la concurrence du livre électronique et la disparition des librairies. Alors, est-ce que le livre électronique entraînera la disparition des librairies ? Ici, je pense que les avis seraient partagés, mais en tout cas, elle prend la défense de la librairie espace, du livre papier et du libraire humain. Et je pense que c'est une des raisons qui font qu'elle est là ce soir. Et comme dirait Baudelaire, ce qui à un moment apparaît anachronique finit toujours à un autre moment par apparaître moderne. Et en effet, dans le livre papier, il y a une véritable révolution technologique, écrivez-vous, sans précédent, qui présente le livre papier comme un dispositif cognitif bio-optique constituant une rupture technologique majeure. Et donc, ce livre, en étant portatif et utilisable partout, est dépourvu de câbles, de circuits électroniques et de batteries, et donc ne nécessite pas de connexion et ne tombe jamais en panne. Il suffit de l'ouvrir pour commencer à profiter de ses énormes avantages.
Je dois tout de suite préciser, c'est pas de moi ça. Hein.
Ah, c'est une citation, c'est une effectivement, citation... que vous faites d'après un site internet
oui,
espagnol.
Oui, je pense que plein de personnes ici ont dû voir cette petite vidéo qui était assez géniale voilà. Dans sa simplicité. Une vidéo espagnole, on voit un jeune homme en pull couleur de Granny Smith qui vante un outil absolument révolutionnaire, etc., le livre. Voilà, ça s'appelle
Mais
Book.
Vous l'avez tout à fait bien ressaisi et retranscrit avec beaucoup d'humour, me semble-t-il. Voilà, je voulais donc simplement en introduction rappeler cet amour des livres, cet amour des librairies, cet amour des lecteurs aussi que l'on sent dans vos livres. Et pour nous introduire directement à ces rendez-vous nomades, à ce monde sans vous, qui sont vos derniers ouvrages, je dirais que vous nous placez dès l'abord devant votre permanente quête de sens, quête des questions existentielles fondamentales. Je cite la première phrase et je vous laisserai partir ensuite là-dessus. « On ne cherche pas du sens à ce qui est, à ce que l'on est, à ce que l'on veut, à ce que l'on imagine, désire, espère, à partir d'un lieu vierge, neutre et muet, on procède toujours depuis un lieu dit culturel. » Alors on pourrait peut-être partir de là. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous entendez par lieu dit culturel et quels sont les lieux dits culturels de Sylvie Germain ?
C'est assez clair, mon lieu dit culturel. Non, c'est-à-dire que ce livre, déjà je vais indiquer comment est venu ce livre. C'était pas une idée qui est venue, c'était assez curieux pour moi, c'était une suggestion, une proposition de l'éditeur Jean Moutapa, le responsable des éditions Essai Spiritualité dans la maison d'édition Albin Michel, qui avait pensé il y a quelques années, c'était une bonne idée et peut-être pas si bonne que ça, de reprendre, certains connaissent peut-être cette collection qui avait, il y a une cinquantaine d'années, un certain succès qui s'appelait « Ce que je crois » ou un livre de Mauriac, avait été un des plus connus de cette collection. Et c'est sûr qu'à l'heure actuelle, intituler une collection ce que je crois, ça ferait, on peut, ça rimerait d'ailleurs avec faire rire les chevaux de bois. Donc il avait plutôt pensé demander à des gens divers, pas obligatoirement croyants, mais on a tous de toute façon justement des formes de croyance, demander plutôt ce que je cherche. Il voulait plutôt partir sur cette idée-là et qu'on parle quand même à la première personne et qu'on dise un petit peu en fait d'où on parle, d'où on vient. Donc moi, je m'étais prise au jeu en essayant d'éliminer le « je » parce que j'aime très moyennement l'utiliser dans des livres. Mais bon, de temps en temps, il y avait un passage obligé. Et dans la première partie du livre, j'ai essayé d'indiquer très rapidement d'où je parle depuis une trentaine d'années en tant qu'écrivain. Je crois que toute personne peut faire cet exercice chez soi et se demander d'où viennent les idées que l'on porte et que l'on défend, parce que très souvent, même parfois, on peut s'exciter d'une manière outrancière, on peut parler avec beaucoup de passion pour défendre position politique, position religieuse ou anti-religieuse, peu importe, des positions pseudo-philosophiques, etc., comme si on était vraiment convaincu de ce qu'on dit. Et si on réfléchissait un peu au silence après, ça serait bien à chaque fois de se demander « mais d'où je parle ?» Et pourquoi je dis ça ? Et est-ce que je sais d'où ça me vient ? Est-ce que j'ai pesé les mots ? Est-ce que j'ai pesé tout ça ? Est-ce que ça a du sens ? Parce qu'on a toujours deux grands risques. Soit c'est justement de prendre comme un acquis un héritage, comme un vraiment un acquis sans réfléchir, sans évaluer, sans faire de tri, sans le réajuster à sa propre pensée, à ses propres questions et tâtonnements dans la vie, soit rejeter en bloc, ce qui malheureusement se fait, je trouve, peut-être beaucoup et souvent, du moins en Occident, on prend en bloc. D'un côté, ça peut conduire jusqu'à l'intégrisme, ceux qui vont, c'est un héritage, je le prends comme tel, j'y change pas un iota, et une sorte de comportement comme ça qui peut aller jusqu'au fanatisme. Et d'un autre côté, le rejet en bloc, sans réfléchir, sans creuser, sans voir ce à quoi on renonce. Dans les deux cas, je trouve que c'est très 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 dommageable pour soi-même, et par rapport justement à cet héritage, quand je dis héritage, c'est héritage culturel, spirituel, historique, qu'on va ou on y adhère aveuglément ou on le rejette en bloc. Voilà. Donc il y a une sorte de réappropriation. On n'est pas héritier comme ça de droit à mes yeux. Toute chose doit quand même se... Je ne sais pas si c'est le mot mérité qui est valable, mais quand même se conquérir un petit peu. À la fois, tout nous est donné, on reçoit. La langue, la pensée, la culture, tout ça nous est donné. Il y a toujours beaucoup de passeurs dans nos vies, à commencer par la famille, les parents, et puis les instituteurs depuis la maternelle jusqu'à la fin des études, les gens que l'on rencontre, et les bibliothèques, et tout ça. On est environné de passeurs, heureusement. Il y a d'autres moyens maintenant. Effectivement, on peut mettre Internet et plein d'autres choses. Mais pour s'orienter après avec justement des outils comme Internet, qui sont à la fois extraordinaires, mais trop énormes, trop vastes, il est bien de déjà s'être un petit peu structuré peut-être pour trouver la boussole pour s'orienter, quoi.
Alors cette boussole pour vous orienter dans ce monde, vous dites... Mais peut-être que je m'avance un peu, mais il me semble que vous dites que un de ces lieux culturels que vous habitez, que vous aimez creuser, c'est la Bible. C'est la Bible.
Oui, je l'ai écrit, je peux
vous
pas
l'avez
le renier.
Écrit. Et donc, est-ce qu'on pourrait un petit peu parler de ce livre pluriel, enfin, la manière dont vous lisez et dont vous vous inspirez de ce livre pluriel, donc composé de plusieurs livres, et qui reste évidemment un modèle de littérature, mais dans lequel vous semblez avoir des lieux de préférence. Par exemple, j'ai noté que vous citiez souvent le livre de Job. Est-ce que c'est parce que vous recherchez d'abord des textes qui sont en consonance avec l'expérience humaine, plutôt l'expérience humaine douloureuse, tragique ?
Non, pas seulement. Il y en a peut-être un que je cite depuis quelques années encore plus. C'est un passage du Livre des Rois, au chapitre 19, l'expérience d'Élie au Mont Horeb. Éventuellement, on peut revenir dessus après. Il y a d'autres passages, que ce soit dans le Premier Testament ou dans les Évangiles, il y a différents passages. Et puis, comme toute personne, à travers le temps, vieillissant, traversant les décennies, et en tournant autour de certains textes, il y a des lieux dont on s'éloigne, enfin des lieux de livres, des lieux de pensée parfois dont on s'éloigne un peu ou qu'on aborde autrement, d'autres qu'on découvre, d'autres qu'on redécouvre. Et heureusement qu'il y a ce... C'est pour ça le nomadisme, hein. Nomadisme, c'est-à-dire être toujours en chemin et à la fois en laissant... Le chemin à la fois ouvert, c'est-à-dire pas se dire, voilà, j'ai tracé, j'ai délimité un plan et je ne sortirai pas du chemin que je me suis tracé, parce que du coup, on risque fort, et c'est même tout vu, de n'avoir aucune surprise en chemin. Et ça, on trouve cette idée-là chez quasiment tous les grands penseurs et chez les mystiques. Hein. Cette idée que le meilleur chemin n'est pas le plus court, au contraire, c'est le plus long et le plus tortueux pour essayer d'avancer dans le questionnement, et que malheur à celui qui ne se perd jamais parce qu'il ne rencontrera pas l'imprévu. Ça, on le retrouve dans la mystique juive, on le retrouve un petit peu partout. Et si on regarde également les contes et légendes, on trouve aussi ces idées-là. Très souvent, la manière dont les histoires dans les contes et légendes se développent, qui sont toujours plus ou moins initiatiques, c'est-à-dire pour la sortie d'enfance, découverte de l'ensemble du monde, dont l'éros aussi, c'est les personnages sont amenés à aller de surprise en surprise, à se perdre en chemin, et c'est en se perdant souvent qu'ils font des découvertes qu'ils n'auraient pas faites s'ils avaient suivi un tracé très, très décidé. Donc, on peut très bien prendre un livre comme la Bible. On le sait, la Bible, c'est une bibliothèque. C'est écrit sur plusieurs millénaires, hein, comme durée, et par, je ne sais pas combien, c'est vous quand même qui êtes plus spécialiste que moi, hein, qui pouvez répondre à ça, je ne sais pas combien on peut désigner de rédacteurs. Donc, sur des millénaires. À partir de là, c'est plutôt une bibliothèque que simplement un livre. C'est un ensemble de livres avec tout un jeu. C'est ça qui est extraordinaire. C'est même bibliothèque au sens physique, parce qu'il y a un jeu d'écho remarquable dedans. Puisque les paroles des uns vont, dans des livres beaucoup plus anciens, vont être reprises par d'autres. Les prophètes vont reprendre des siècles. Après, parfois, vont reprendre des images, des métaphores, des intuitions. Et dans les évangiles, on peut retrouver presque à chaque fois des allusions qui sont faites à des paroles, des psaumes, à des paroles chez Isaïe ou chez d'autres, chez l'ensemble des grands prophètes. Donc il y a ce jeu d'écho, comme si déjà c'est un espace où, par la force des choses, on bouge. On n'est pas obligé de rentrer dans la Bible, page 1, et puis peu à peu, c'est peut-être aussi une bonne façon, mais en tout cas, moi, c'est pas la mienne, je vais plutôt par chemin buissonnier, faute d'avoir une formation biblique, hein, d'ailleurs. Moi, j'y vais, je suis peut-être pas un très bon exemple.
C'est l'exemple biblique, pour le coup, de ce cheminant, c'est l'Exode. Et qui suppose donc une sorte d'errance, hein, pendant 40 ans, disons, dans le désert, et qui correspond à ce cheminement mystique. Hein. La plupart du temps, on pense que les Hébreux ont erré dans le désert parce qu'ils ne trouvaient pas leur chemin, ou parce que Dieu les condamnait à une errance perpétuelle. En réalité, votre lecture serait donc plutôt de situer ce peuple dans sa recherche, oui, dans son initiation mystique sur une très très longue durée.
Ce peuple, c'est tout le peuple humain, hein, c'est pas seulement ce peuple. Et le titre, plusieurs fois on m'a demandé pourquoi ce titre-là, toujours dans la Bible, et je crois que c'est dans l'Exode, où vous allez me corriger, quand justement, pendant l'Exode en tout cas, quand Moïse, quand il plantait leur tente, il faisait une sorte de camp, hein, comme on plante quand on est comme ça, toute une tribu qui part dans le désert, j'imagine regroupée selon un certain ordre, et il est dit, il y a ce passage tout à fait étonnant, parce qu'ils n'en parlent pas après très souvent dans la Bible, Moïse prenait la tente et sortait, et c'est répété deux fois, hors du camp, loin du camp. C'est bien précisé, hors du camp, loin du camp. Et c'est repris plusieurs fois dans un tout petit verset. Et il est dit qu'elle était appelée la tante du rendez-vous. Moi, je trouve ça étonnant, je trouve ça magnifique comme figure. Tante du rendez-vous, donc plantée hors du camp, loin du camp, pour les rencontres, entre guillemets, avec Dieu. Voilà. Et il attendait là-bas et qu'il y ait une manifestation. Alors bien sûr, c'est toujours sous forme très métaphorique, assez imagée, comme Dieu n'est pas représentable, sous forme d'une fumée qui descendait ou d'un flamboiement, selon, etc. Et il y avait comme une sorte de... Il fallait se tenir disponible, parce qu'on ne sait jamais quand il va passer. Voilà. Hein, c'est un peu comme une sorte de vent, de courant d'air. Mais c'était cette idée, donc, de sortir, hein, cette idée de sacré. Et en même temps, ce n'était qu'une tente qui se démontait, qui repartait avec les hommes, et je trouve l'image très belle. Et dès qu'on veut chercher du sens à quelque chose, je crois que il faut sortir de soi-même, justement. Il faut, c'est-à-dire à la fois, c'est toujours ce jeu paradoxal. Dès qu'on veut réfléchir à quelque chose, il y a besoin de silence, de patience, donc d'immobilité, de calme, pour essayer dans cette tranquillité relative autour de soi, d'être dans un mélange de concentration et de rêverie. Et dans le même temps, c'est grâce à ça que l'on peut se mettre en état de nomadisme intérieur, c'est-à-dire en état de mouvement, de chemin, de disponibilité.
Alors c'est le chapitre 33 de l'Exode, voilà. En effet, mais vous le citez, vous donnez la référence exacte, hein, c'est le chapitre, le verset 7 du chapitre 33, et c'est un beau passage, je vais peut-être vous lire pour vous donner le goût d'aller plus loin. « La Bible forme une éminence dans mon paysage, et celle-ci est tout autant abrupte, pleine d'aspérité, d'ombres et de brumes, que souple, mouvante, resplendissant de lueurs incomparables. Elle est à la fois stable et ambulante, comme la tente du rendez-vous que Moïse prenait et plantait pour lui hors du camp, loin du camp, pendant sa longue pérégrination dans le désert avec son peuple. » Voilà, la tente est l'habitation de tous les peuples nomades, un abri provisoire aussi mobile que le corps des hommes et des bêtes en marche continuelle. Celle dite de la rencontre ou du rendez-vous est réservée à cette voix venue d'ailleurs. Elle l'accueille le temps de son passage et veille sur les traces laissées par sa visite, traces immatérielles, impondérables, intensément prégnantes. Voilà, alors la Bible, image donc de cette tente, ou cette tente, image de la Bible elle-même, dans laquelle on peut se promener aussi. Donc, on peut se promener dans le livre en essayant de capter cette voix venue d'ailleurs. Et vous essayez donc dans cet ouvrage de parler un petit peu de cette voix de Dieu, de montrer en tout cas comment vous essayez d'en parler, par quel biais vous essayez de nous dire quelque chose de cette présence ineffable, insaisissable, de cet être que nous nommons Dieu dans la tradition philosophique et théologique occidentale, et qui est un Dieu personnel, et qui a tendance, me semble-t-il, à s'effacer devant le Dieu cosmique, celui qui vient d'ailleurs. Comment est-ce que vous réagirez à cette possibilité de choix devant l'idée de Dieu? Un Dieu personnel, un Dieu cosmique, est-ce que c'est la même chose ?
Oui, non, c'est intéressant parce que demain j'ai vu que devait passer Franz Olivier Gisberg. Alors lui, il est plutôt pour le Dieu cosmique. Et on peut pas tout confondre, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on appelle Dieu personnel ? Ça aussi, justement, dans le livre, il y a un moment où j'interroge des mots qu'on a tendance à prendre comme un acquis, comme une évidence. Et parmi ces mots, j'interroge un petit peu ce mot « Dieu » qui, je dois avouer, en français, pose quand même un petit peu problème parce que ça vient du mot « Zeus ». Donc il y a un énorme détournement. Or, en grec, enfin, je rappelle, cette étymologie est-elle juste ou pas, que j'avais trouvée chez un magnifique théologien qui s'appelle Adolphe Guéchet, dans un livre donc, d'Adolphe Guéchet, où il disait, d'ailleurs je cite le petit passage, où il disait que le mot donc théos, mais qui doit se prononcer théos, serait venu à l'origine, donc pour désigner Dieu, donc rien à voir avec Zeus, d'une sorte simplement, pas d'onomatopée, mais de, vous savez, un souffle, comme quand on est extrêmement étonné, on fait ah! Et ça serait une sorte, vous voyez, de son simplement d'émerveillement, étonnement. Et cette idée d'émerveillement, étonnement, ce qui est intéressant, c'est qu'on la trouve à l'origine de toute grande pensée. Pas seulement d'ordre spirituel au sens après religieuse, mais également philosophique. C'est chez Platon, chez Aristote, chez les deux et chez bien d'autres, mais bon, c'est plus connu, c'est plus célèbre chez l'un et chez l'autre. Ils le disent explicitement, ces philosophes, le début de la philosophie. Et on ne peut pas s'intéresser vraiment à la philosophie, se mettre en chemin de questionnement du monde, si on n'est pas sujet à étonnement. Au moins l'étonnement, mais un étonnement qui soit émerveillement. Alors, peut se mêler à cet émerveillement un mélange de troubles si fort qu'il y a toujours ce mélange de tremendum, c'est-à-dire aussi de frayeur devant quelque chose qui nous dépasse totalement. Mais je trouvais cette proposition d'étymologie dans une langue, hein, qui est donc le grec, et venant d'un simple son d'étonnement, une sorte de sifflement, soupir, ça. Voilà, d'étonnement, je trouvais cette étymologie très belle et qui nous permet, qui désigne quelque chose d'autre que ce à quoi on est peut-être un peu trop habitué. Effectivement, si on entend Dieu au sens de Zeus, sorte de force toute puissante, de potentat, on voit les drames que ça peut générer siècle après siècle quand on s'enferme dans une représentation aussi finalement guerrière, toute puissante, etc. Et c'est ce qui est en Occident rejeté à tort, à travers, très souvent c'est très justifié dans des réactions devant les dérives de ceux qui se réclament de cette image de Dieu et qui pointent dans l'histoire même de la chrétienté, d'ailleurs chrétienté il n'y en a plus à l'heure actuelle, comme un temps historique simplement maintenant dont le message, dans ce qu'il a de plus beau, c'est littéralement diffusé dans la société, mais on ne sait même plus d'où il vient, voilà. Et qu'il y ait un rejet de toute image ou représentation d'un Dieu tout puissant en Occident. Alors malheureusement, justement, il y a un mélange des genres. Sur certains côtés, je comprends très bien ce rejet, ce refus, cette exaspération au nom d'un humanisme qui finalement récupère davantage des valeurs dites chrétiennes. Et en même temps, sous prétexte qu'il y a tellement de dérives et d'exemples terribles qui nous sont donnés jusqu'à l'heure actuelle, toutes les formes d'intégrisme, sous toutes les latitudes, évidemment, parfois, je veux dire, je trouve que c'est très problématique, c'est comme on dit grossièrement, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire rejeter d'emblée, d'office, a priori, tout ce qui est pensée religieuse, sous prétexte qu'il y a des dérives religieuses, je trouve ça très, même intellectuellement, ça me pose problème. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui est de l'ordre d'une forme de paresse, de colère, de gestes trop hâtifs. De quoi se prive-t-on en rejetant tout ça? C'est quand même intéressant de savoir, d'essayer de comprendre pourquoi pendant des siècles, même des millénaires, ces questionnements sous cette forme-là, on nourrit quand même complètement la pensée, l'imagination, le cœur et tout. De millions et de millions d'êtres qui nous ont précédés, tous ceux qui viennent avant nous au fil des siècles. Je trouve qu'on ne peut pas se débarrasser si rapidement de tout ça et que les textes méritent d'être réinterrogés. Voilà.
Fait penser à ce que vous disiez à l'instant, me fait penser à cette manifestation de Dieu dans le livre des Rois que vous citiez tout à l'heure et qui se révèle au prophète Élie dans le sifflement de la brise légère.
Eh bien, toujours le sifflement.
Et non pas dans le tonnerre et dans les éclairs, comme on le voit par ailleurs dans l'Exode. Hein. Mais donc, ça voudrait dire qu'il y a un affinement progressif, hein, de l'idée de Dieu, dont là, on a par exemple deux traces assez saillantes dans l'Écriture elle-même. Et Est-ce que cette confusion, parfois, que vous semblez discerner autour de vous, dans le discours, dans la culture, dans la pensée, est-ce que ça expliquerait votre amour des définitions ou de l'étymologie des choses, des mots? J'ai trouvé qu'il y avait énormément de définitions, alors quelquefois qui sont des définitions à la manière du dictionnaire, tout simplement, hein, par exemple le mot hasard, voilà, et puis d'autres fois des définitions, des étymologies beaucoup plus développées, beaucoup plus taillées, de manière poétique. Mais cet intérêt pour la définition...
Ben, c'est un intérêt pour les mots.
Pour les mots.
Les mots...
Mais le sens des mots, c'est-à-dire ce qu'ils veulent dire précisément, parce que par rapport à la confusion dans laquelle
C'est difficile, et puis moi je ne suis pas du tout spécialiste, mais bon, je crois que dès qu'on est dans l'écriture, surtout si on est romancier, s'il n'y a pas un amour très particulier pour le langage, ben, ce n'est pas la peine de se mettre à écrire. Et parfois, enfin même assez souvent... J'entends, même à la radio, parce que bon, je suis un peu beaucoup téléphobe à tort, parce que je rate plein de choses bien, mais bon, j'ai pas de télé, donc je peux pas juger sur la télévision. Mais même à la radio, ou les rares fois où je vais voir, même sur des vidéos, je suis comme tout le monde maintenant, je vais quand même voir des choses sur Internet ou des vidéos, parfois je suis étonnée de l'usage du langage que font des gens, on va dire des médias, du cinéma, du showbiz, etc. Comme s'il y avait une sorte de laisser-aller qui était de bon ton, qui fait bien, voilà. Et avec un rétrécissement du vocabulaire, et une manière parfois d'user des mots qui ne sont, moi il me semble, pas à leur place. C'est-à-dire, les mots deviennent des mots valises. On fait dire un peu tout et n'importe quoi à des mots. Alors, c'est une facilité, c'est-à-dire une paresse intellectuelle, mais parfois, elle est dangereuse parce qu'elle provoque d'énormes malentendus. Hein ? En même temps, on est étonnant parce qu'il y a une sorte de laisser-aller comme ça dans l'usage du langage, mais dès qu'une personne publique, surtout politique, emploie un mot, parfois peut-être dans un sens que lui a donné à ce mot, on voit des levées de boucliers parce que qu'est-ce qu'il a dit là, etc. Et on va s'arrêter sur des mots. On accorde beaucoup plus d'importance aux mots qu'on ne le croit en fait. Dès qu'on est dans l'espace public, selon les mots qu'on emploie, certains peuvent être comme des grenades dégoupillées. Donc c'est assez étonnant. Mais là, c'était effectivement certains mots et réaction aussi, entre autres, à un livre d'une personne que je respecte tout à fait par ailleurs, qui est un très beau penseur, philosophe, qui s'appelle Nicolas Grimaldi, dont je respecte tout à fait le travail, grand spinoziste, et qui est... commis un petit livre qui m'a un petit peu consternée, je dois avouer, qui s'appelle « Une démence ordinaire », je crois que c'est le titre. Et cette démence ordinaire, c'est ni plus ni moins ce qu'il qualifie comme tel, c'est la foi. D'ailleurs, il confond le mot foi, croyance, bon ça fait partie des mots qu'on emploie communément comme des synonymes, or c'est pas tout à fait le cas. J'essaye de les distinguer, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est peut-être un petit peu à l'intuition, mais ce livre m'avait... assez stupéfiée, je me suis dit, bon, c'était comme une résumée, un condensé de cette espèce de haine et d'allergie qu'il y a à l'heure actuelle en Occident, en Europe en tout cas, en France précisément, à l'égard de toute pensée religieuse. Et là, dans ce livre, de la part d'un homme par ailleurs si fin, pertinent et intelligent, j'étais ahurie de voir comment il traitait et les croyants, le fait, simple fait de croire à ses yeux est taxé d'un aveuglement volontaire face à la réalité, d'un refus du réel, d'un état hallucinatoire que l'on entretient soi-même. Enfin, c'est très violent comme terme. Or, je trouve ça ahurissant. C'est une mécompréhension, une non-sensibilité à ce que peut être l'espace intellectuel, mental et également affectif de personnes qui sont dans un espace, disons, de foi, parce que non seulement ce n'est pas contre la réalité, mais au contraire, c'est une manière de sonder très en profondeur ce qu'on appelle la réalité. Moi, je demande toujours qu'est-ce qu'on appelle exactement la réalité. les poètes, les artistes, l'ensemble des artistes, alors on désigne en général essentiellement les poètes, et les plus grands poètes, ils nous touchent pourquoi ? Même si parfois on ne comprend pas vraiment ce qu'ils nous disent dans quelques vers fulgurants et magnifiques, si on nous demandait une explication de texte, dire on n'en a pas envie, on ne saurait peut-être pas le dire. Pourquoi essayer de retraduire d'une manière un peu lourde ce qui est dit d'une manière sublime ? Le propre des poètes, c'est justement de savoir nous faire sentir à travers quelques mots, confrontations sonores de mots, à travers quelques métaphores extraordinaires, comme si ça faisait des courts-circuits dans la pensée, et on sent qu'au moins une fraction de seconde, on touche quelque chose d'essentiel, du réel. Et les grands peintres, la peinture, qu'elle soit figurative ou pas, les tableaux qui nous mettent en arrêt, qui nous font faire aussi, en un sens, qui nous coupent le souffle, hein, comme on dit, la musique, enfin, ou des danseurs, on peut prendre tous les domaines artistiques, sont ceux qui nous mettent justement en arrêt. Qui nous mettent en arrêt et qui nous font deviner, pressentir que l'extraordinaire ne se joue pas de manière extravagante, dans quelque chose toujours de très spectaculaire, mais au contraire peut surgir de ce qu'on appelle l'ordinaire des jours, et c'est dans ce qu'il y a de plus banal en apparence, de plus ordinaire, qui a cette plus grande force d'extraordinaire. Justement, j'en parle aussi un petit peu dedans. Extraordinaire, c'est simplement extraire de l'ordinaire. C'est pas quelque chose qui est totalement étranger à l'ordinaire, pas du tout. Et malheureusement, c'est l'idée souvent qu'on en a, et là encore, quand je vais regarder, vagabonder un petit peu sur Internet et que je vois parfois je ne peux pas supporter plus d'une minute ou deux et encore, des chanteurs très, 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 très à la mode ou autre, mais je me demande pourquoi ils, elles, en font autant. Ils y vont à la louche, dans le look, dans le bruitage autour. Or, il serait beaucoup plus intéressant avec un petit peu moins de tralala autour et de vacarme autour et de paillettes et de trucs, enfin le style Lady Gaga et ce genre de choses. Bon, trop c'est trop, ils n'ont toujours pas compris que le trop est l'ennemi du bien, voilà. Et alors que parfois, il y a des choses qui vont sortir, par exemple je pense du coup aux Antipodes, évidemment ça va dater ma référence, ça va dater beaucoup, quelqu'un comme Edith Piaf. Elle n'avait pas besoin de tralala, vu la voix sublime qu'avait cette femme. Et elle pouvait être là, avec sa petite robe noire, ses mains bouffées d'arthrose le long de la robe noire. Bon, vous lui donniez un micro, elle n'avait même pas besoin de micro d'ailleurs, il n'y avait besoin de personne autour, pas de danseur, rien du tout. Et elle pouvait chanter des chansons souvent très bébêtes, hein. On s'en foutait royalement de ce qu'elle chantait. C'était cette voix, et elle vous prenait, elle vous empoignait aux tripes. Bon, je la cite elle, c'est peut-être un peu facile, on pourrait citer plein d'autres. C'est... Bon, je suis un peu dans des caricatures, mais c'est simplement pour dire que voilà, l'ordinaire n'est pas banal comme on peut le croire, et qu'il suffit de s'arrêter justement et de regarder, d'être patient pour que quelque chose advienne. D'ailleurs, le même Nicolas Grimaldi, dans une interview que j'avais vue sur toujours Internet, disait une chose magnifique. Il disait: là où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de sens, car le sens se fait attendre. C'est une phrase extrêmement juste. Là, je suis absolument d'accord avec Nicolas Grimaldi quand il dit ça, parce que lui aussi déplore justement ce qu'il appelle l'ontologie de l'immédiateté, où on veut tout, tout de suite, sans attendre, sans rien du tout. Alors, on peut acquérir effectivement plein de pseudo-connaissances avec ça, en zappant tous azimuts, en allant très très vite, on peut... Mais la mémoire ne suit pas. La mémoire, elle a un certain temps, la mémoire, un temps de sédimentation. Et si on ne lui laisse pas ce temps-là, finalement, ça va être des trucs un peu comme ça, éblouissants, un peu brillants, étincelants et tout. Mais est-ce que ça va vraiment nous nourrir? Ça n'aura peut-être pas le temps de se déposer et effectivement de se sédimenter. Et là, je trouvais que la phrase vraiment de Nicolas Grimaldi était très juste. Et je me suis dit en l'entendant, mais pourquoi il n'applique pas ça aussi à la pensée dite religieuse? Parce que justement, ceux qui sont dans une pensée de foi, enfin qui sont dans la foi, certains, ça relève comme Saint Paul sur le chemin de Damas, l'exemple aussi hyper célèbre de Claudel derrière son pilier à Notre-Dame. Bon, il y aurait plein d'autres, des anonymes qui pourraient dire ça. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est de l'ordre du rapt, hein, ce qu'on appelle vraiment comme le rapt amoureux, le coup de foudre. C'est de l'ordre d'un rapt. Il y a une fulgurance et la personne est saisie. Mais si ça s'arrêtait à ça, à ce côté comme ça qui est violent, magnifique, à la fois terrible et émerveillant, etc., comme peut être un coup de foudre, si on s'arrête à ça et qu'après on ne fait rien derrière, qu'on laisse passer ou qu'on reste béat comme ça, eh bien il ne se passera rien. Et après, il y a tout un travail, en général, qui dure toute une vie pour tous ces gens-là, justement, d'attente, de réflexion, de quête, d'enquête, de parfois qui passe par des tourments, par des égarements, par la fameuse nuit de la foi, la nuit du néant dont parlait Thérèse de Lisieux, parce qu'on sent bien que une sorte de, d'absolu de sens, absolu au sens, vous savez, de presque chimique, enfin de quelque chose presque à l'état pur, nous a saisis. On n'est pas apte à pouvoir saisir ça, quel que soit le niveau d'intelligence de la personne, parce que ça dépasse les limites de la raison. Et après, on n'a pas trop d'une vie pour essayer de tourner autour de ça, de s'interroger, d'essayer de laisser se décanter tout ça, pour essayer de comprendre un peu et de laisser réadvenir du sens. Donc ce qui est valable pour la quête philosophique, la quête esthétique, la quête dans des tas de domaines est valable aussi, je le revendique, pour les gens qui se disent croyants. Voilà. Ils ne sont pas plus débiles, déments, hallucinés que d'autres. Parmi eux, bien sûr, il y a des hallucinés, des intégristes, des gens qui peuvent commettre des actes absolument monstrueux au nom de leur... ou se comporter d'une manière aberrante et tellement non humaine, non miséricordieuse au sens fort du terme miséricorde, au nom, soi-disant, d'une sorte de concept de divin qui se sont donnés et qui ne remettent pas en cause. Il n'y a pas de travail de la pensée là-dedans. Alors là, effectivement, c'est dramatique. Mais c'est pas parce qu'il y a ces dérives monstrueuses qu'on doit tout rejeter en bloc. Voilà. Ce qui est intéressant dans l'être humain, c'est justement sa capacité à tout questionner. Et ça, ça fait partie d'un questionnement.
Dans une autre, dans un autre domaine, celui de l'écriture, du roman en particulier, du jeu romanesque, vous citez une phrase de Kundera. J'aimerais bien que vous commentiez, qui dit « Le romancier n'est ni historien, ni prophète, il est explorateur d'existence. » Le romancier, explorateur d'existence. Alors, dans beaucoup de vos romans, de vos essais, cette exploration de l'existence est aussi une exploration du mystère du mal. Justement, dans une perspective de foi, peut-être aussi de non-foi, bien sûr, on se pose souvent la question du pourquoi. Et dans une perspective de foi, en tout cas, la question du pourquoi, elle est toujours possible. Or, à certains moments, vous dites, certaines idéologies ont voulu éliminer la question du pourquoi. Ici, il n'y a pas de pourquoi. Vous revenez sur cette
phrase célèbre.
Donc, à l'entrée des camps de concentration. Et donc, est-ce qu'on pourrait un petit peu explorer avec vous cette question abyssale, cette question humaine abyssale, qui est celle du mal sans pourquoi ?
Vous savez, je ne sais plus qui disait ça, qu'en fait, le plus grand mystère, ce n'est pas tant celui du mal, c'est celui du bien. Parce que le bien aussi, c'est un mystère, la bonté. Mais la bonté, elle est effectivement pas l'objet de... Elle n'est pas romanesque. Le bien, le bon, la bonté, c'est pas très romanesque. Parce que le véritable bien, il se fait dans une totale discrétion. Et les véritables saints sont ceux qui ne savent même pas qu'ils font le bien. D'où la phrase que je reprends souvent, qui a été rendue célèbre d'Angelus Silesius. Angelus Silesius il est du 18e et allemand. En fait, il était d'origine, je crois, protestante, converti au catholicisme. Et il a écrit, alors il a pris ce nom d'Angelus Silesius, parce que c'était en Silésie. Et son vrai nom est Scheffler, je crois, un nom comme ça. Et il a écrit, son écrit les plus célèbres, c'est Le pèlerin chérubinique. Et c'est sous forme, à chaque fois, comme deux vers. C'est magnifique à lire. Je suis sûre qu'on le trouve à la librairie Mola. C'est vraiment très, très, très beau. Et il y a une phrase qui est devenue extrêmement célèbre grâce à Heidegger, qui par ailleurs me posera toujours problème, mais bon, c'est encore un autre sujet. Dans un de ses ouvrages philosophiques, Heidegger s'est penché sur cette phrase magnifique. Alors, tout dépend des traductions. Globalement, la rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. Il s'arrêtait à ça. En fait, ça continue, il dit « Elle n'a souci d'elle-même, ne regarde si on la voit. » Mais il s'est arrêté à la première... Alors, en plus, en allemand, il y a une ambiguïté, parce que c'est la rose, et sans pourquoi elle fleurit, parce qu'elle fleurit, mais c'est... Parce que ça en vit également, c'est « sie blüht »,« weil sie blüht ». Et « weil », ça peut être « tandis qu'elle fleurit » ou « parce qu'elle fleurit ». Ça, c'est possible de traduire « elle fleurit parce qu'elle fleurit » ou « elle fleurit tandis qu'elle fleurit ». Ça apporte quand même pas mal de différences. Bon, il s'est penché là-dessus, il a écrit de très belles pages là-dessus, et effectivement, l'être humain, c'est tout le contraire. On n'a rien d'une rose, nous. Hein. Enfin, on a les épines de rose, mais on n'a pas beaucoup de la rose, parce qu'on regarde en permanence l'effet qu'on fait, on écoute les échos de ce qu'on dit, enfin, je veux dire, on est très soucieux, parce que ben, on est bâti comme ça. Alors, si ça prend des proportions graves, hyper narcissiques, ça c'est autre chose, mais je veux dire, l'être humain, pour le meilleur, pour le pire, on est comme ça, on a souci du regard des autres, parce qu'on peut pas vivre sans le regard des autres, de toute façon. Donc, quelque chose est toujours faussé. Hein. Et sur un autre plan, ça me rappelle du coup encore un autre allemand, un de mes poètes, parmi mes poètes préférés, Rilke, qui dit dans les élégies de Duino, il dit quelque part, mais nous, par rapport aux animaux, mais nous, humains donc, qui nous a ainsi retourné que quoi que nous fassions, nous avons cette allure de celui qui s'en va et toujours se retourne. Toujours tourne la tête, hein, comme s'il y avait toujours quelque chose qui... On veut aller de l'avant, mais... On est retourné, on est contourné, on est compliqué, quoi, voilà. C'est le propre de l'être humain. Et de se poser, justement, aussi des questions. Alors, là, la question du... J'arrête pas de zigzaguer, là, et ça va être de mal en pis. Je reviens, donc, à la rose et sans pourquoi elle fleurit parce qu'elle fleurit. Si on le prend positivement, ça, ce sans pourquoi est magnifique. C'est le sans pourquoi du côté de la pure gratuité, de la pure prodigalité. La rose fleurit parce qu'elle fleurit, c'est-à-dire elle ne se cherche pas une cause, tandis qu'elle fleurit, c'est-à-dire c'est comme si elle se livrait en toute confiance au temps qui passe. Voilà. Elle se laisse fleurir, elle se laisse porter, elle déploie cette beauté fugace, éphémère, elle la dispense sans souci de se faire applaudir. Et ça, ça me fait penser du coup... à ce que dit Simone Veil, la philosophe Simone Veil, dans La pesanteur et la grâce, quand elle parle justement de celui qui fait le mal et de celui qui fait le bien, elle dit que celui, l'innocent au sens fort, celui qui vraiment ne nuit à personne, est comme dans transparent à lui-même et qu'il ne sait même pas, l'innocent ne connaît pas à la limite le bien, il est le bien. Il est le bien en action. Et il ne se pose pas la question de se dire « Ah, là, j'ai bien fait hein ». Ce qui est dénoncé d'ailleurs constamment dans les évangiles, ceux qui... Voilà, la fameuse phrase « Que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche », même si on peut donner d'autres explications, c'est l'idée que ça devrait être tellement spontané qu'il n'y a même pas un retour sur soi où on se congratule quand même, on est content. Qu'on le veuille ou non, on est bâti comme ça. Hein. Et quand Simone Veil, dans des phrases toujours chez elle, c'est fulgurant, c'est très très lapidaire, dit que l'innocent est celui qui est comme transparent à lui-même et qui ne sait pas ce qu'il fait, ne se pose même pas cette question. En revanche, c'est l'innocent total, qui fait le bien sans se poser la question, qui sait ce qu'est le mal et qui en souffre le plus. Parce que dans cette espèce de transparence et d'hyperporosité qu'il a aux autres, dans sa fraternité totale, il est peut-être hypersensible au mal qui peut être commis. Il ne va pas l'analyser, simplement il le ressent très violemment. Alors que souvent le bourreau, lui, ne sait même pas ce qu'il fait. Il n'en a même pas conscience. Il peut en jouir, il peut en jubiler, il peut... Ça, c'est carrément le pervers. Mais le salaud ordinaire, ça, il est assez répandu. est-ce que vraiment, en dehors même de ce côté de perversion, de jouissance un peu perverse que on peut ressentir à la souffrance d'autrui, surtout pour ceux qui la commettent sciemment, aussi sciemment soit le mal commis, est-ce qu'on n'en revient pas toujours à cette fameuse phrase, là encore, du Christ, disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est pas pour dédouaner les humains de leurs responsabilités. Là encore, ceux qui sont contre ce genre de texte et de pensée poussent des grands cris et disent « Le pardon, c'est n'importe quoi ». Il ne s'agit pas de ça du tout. C'est « Ils ne savent pas ce qu'ils font » sur un plan spirituel. Évidemment, si on a complètement gommé toute dimension spirituelle de l'humain, ça porte pas à conséquence de torturer son prochain et de le massacrer. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Si on ne conçoit rien autour ou de plus, je ne sais pas, s'il n'y a rien qui irradie de l'être humain, si on a une sorte de vision comme ça, ramassée à peu de choses et sans avoir non plus de dimension humaniste, effectivement, dans ce cas, on peut commettre même... bâtir tout un scénario pour monter un guet-apens. Il y a des assassins qui préparent de longue date et très minutieusement leur crime. Un crime avec préméditation, c'est fréquent. Et ça relève de la justice, ça relève d'un jugement. Ils sont d'autant plus coupables. Mais ça, c'est une démarche intellectuelle qu'ils vont avoir faite. En revanche, sur un plan spirituel, ils ne savent pas la gravité. C'est ça qui est terrible. C'est l'extrême gravité de ce qu'ils ont commis. À la limite, c'est un péché contre l'esprit. Et ça, on ne sait pas très bien ce que c'est. On mesure pas bien. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis, le bien nous échappe. La pensée du bien n'a rien d'évident. Et la pensée du mal nous échappe tout autant. Simplement, la pensée du mal, comme pour en parler, on peut la mettre en scène, parce qu'on a des exemples à foison, et là, la réalité dépasse toujours, il faut bien le dire, la fiction. Les guerres, les tortures, les ignominies commises, et c'est en permanence, et depuis l'origine des temps, et ça continue allègrement, on en a des exemples là, de jour en jour. Et du coup, c'est, je vais être cynique, mais plus... romanesque, plus cinématographique. Même quand on veut parler du bien, ou de la bonté, ou de la sainteté, on en parle comment ? On met le saint homme ou la sainte femme au milieu de gens salauds, ce qu'on appelle les salauds ordinaires, de médiocres, et de quelques salauds de grande envergure, bourreaux, assassins. Regardez, à mes yeux, parmi les très très grands écrivains français du XXe, qui n'est plus tellement lu et qui tombe un peu trop oubliette à mon goût, c'est Bernanos. Bernanos est un romancier qui a su mettre en scène des figures de saints et de saintes, parce que par exemple dans La Joie, la petite Chantal de Clergerie, donc des personnages de pure transparence, de pure bonté, mais... pour les mettre, les rendre sensibles, leur action et la beauté de leur être, c'est au milieu dans des situations, mais vraiment très, très noires, très, très noires. Donc, à chaque fois, et aussi pour faire ressortir la malignité du mal, et en même temps son néant sur un certain plan, il y a besoin de leur opposer des êtres comme ça, comme le fameux curé de campagne, comme... ou Chantal de Clergerie, enfin ça c'est des personnages donc chez Bernanos. On pourrait prendre d'autres exemples, et au cinéma c'est pareil, dans des films de Dreyer, dans des films de Bergman ou d'autres, où il y a des enjeux de cet ordre-là, et encore là il y a une revendication d'ordre spirituel, mais même dans des films où il n'y a même pas, où il n'y a pas du tout cette revendication d'ordre spirituel, c'est quand même pareil. Il y aura toujours ce mélange de ceux qui sont du côté de « ils font le bien sans réflexion particulière » et ceux qui vont aussi... Mais ce n'est pas le même type, justement, de non-réflexion. Ce n'est pas le même sans pourquoi. C'est même aux antipodes. Le sans pourquoi de la bonté qui est spontanée dans sa générosité se situe aux antipodes du sans pourquoi du bourreau qui dit à ses victimes « ici, on ne pose pas de questions ». Il n'y a pas de pourquoi. C'est un refus absolu de la pensée. Et ça, je trouve, ce sans pourquoi, on peut le voir chez un cinéaste, c'est-à-dire deux cinéastes, parce que c'est des frères, les frères Dardenne. Moi, j'aime énormément le cinéma des frères Dardenne. et qui sont de formation catholique, qui ont aussi beaucoup, ils sont très marqués par la pensée d'Emmanuel Lévinas, le philosophe Emmanuel Lévinas. Dans le même temps, ils revendiquent un athéisme, ils ont pris totalement leur distance par rapport à tout ce qui est de l'ordre du religieux, et en même temps, ils acceptent cet héritage sur le plan de la pensée et des valeurs. Et ils font un cinéma ancré dans le quotidien le plus actuel, qui est tout à fait remarquable. Et les personnages, parfois, peuvent commettre d'ailleurs des actes. On voit bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils commettent des actes assez épouvantables. Il y en a, ils restent dedans, bien enlisés dans leur médiocrité de salauds plus qu'ordinaires. Et puis parfois, il y en a un qui est... On ne sait pas pourquoi. Ils ne cherchent pas d'explication, les frères Dardenne, à ça. Ils n'essayent pas de nous dire, voyez, c'est passé ci ou ça. Non, ils nous montrent cette espèce de... Oui, de miracle aussi de l'humain, pour le meilleur, pour le pire. Et dans le dernier film, c'est encore pareil. C'est encore... parce qu'il est un peu déroutant, le film. Pourquoi le personnage féminin dans ce film fait ce qu'elle fait? C'est-à-dire, en fait, elle sauve un enfant du désastre affectif où il allait... On devine qu'elle allait être son destin après. Et finalement, elle le sauve. Et à un moment, je crois que l'enfant lui demande... J'ai déjà vu le film il y a quelques mois. Lui demande, mais pourquoi t'as fait ça? Et elle dit... Je sais pas, elle cherche pas d'explication. Voilà. Cet enfant est tombé sur elle comme ça. Enfin, je veux dire, ce gamin d'une dizaine d'années. Pourtant, elle est un peu décontenancée devant ce qui lui arrive. Elle est un peu agacée parce qu'il provoque quand même pas mal de remous dans sa vie. Et elle assume. C'est comme ça. Et elle se pose pas en héroïne, en voilà, j'ai fait. Non, c'est comme ça. Donc, le fameux « sans pourquoi » qu'effectivement j'interroge dans un chapitre, on peut l'entendre de manière vraiment aux antipodes.
On va peut-être mettre un terme à cette rencontre en vous remerciant tous d'être venus, en remerciant Sylvie Germain. Merci. Et bonne soirée à tous. Peut-être avez-vous quelques livres à faire dédicacer. Ah oui.